1948, ça s'est passé le 22 avril, cette explosion à bord d'une plateforme qui s'appelle Deepwater Horizon. C'est dans le golfe du Mexique et depuis ce temps-là, ben, y a du pétrole qui jaillit du fond marin du golfe du Mexique et ça cause l'immense problème qu'on connaît actuellement. Il y a 14 personnes qui sont portées disparues, c'est suite donc à une explosion assez inexpliquée pour l'instant. Mais comment faire pour colmater cette brèche et surtout comment ça se fait qu'on en arrive à ce genre de catastrophe pétrolière importante? Eh bien, on en parle avec un spécialiste de la pétrochimie, M. Grégory Patience, professeur agrégé au département chimique et directeur du comité de sécurité à l'École polytechnique de Montréal. Bonjour, M. Patience.
Bonjour, bonjour.
D'abord, comment expliquer cette explosion? Beaucoup ont dit que, c'est, bon, il arrive à l'occasion qu'il puisse y en avoir, mais que normalement, on a prévu ce genre de mécanisme, en tout cas pour éviter qu'il y ait de telles explosions. Comment expliquer que ça se soit produit?
Il y a sûrement BP, il saura pourquoi. Tout est relié à Houston, et donc ils ont les capacités de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on ne sait pas encore, mais d'après ce qu'on voit, c'est qu'il se peut qu'il y avait une boule de gaz qui montait dans le riser, ça s'appelle. C'est un tuyau de montée. Et ils étaient en train de terminer le puits. Et dans ces moments critiques, quand on est en train de terminer le ciment et tout ça, parce que ce qui se passe, c'est qu'on va forer un puits, et ensuite on va mettre du ciment pour consolider, et ensuite on le laisse quelques mois et on va revenir pour produire. Donc au moment où on va enlever et bouger la plateforme, ce sont des moments critiques. Donc il se peut qu'il y avait un boule de gaz qui est monté et en montant l'expansion est c'est très grand et ça aurait pu provoquer une explosion à la surface. Donc
en fait c'est une plateforme toute neuve là. Il s'agit pas d'une vieille plateforme. On est en train de la construire.
Non, la plateforme a été conçue en 2001. Ça a coûté 350 millions de dollars. Ce qui était construit, c'était forer le puits. Ça, c'est ce qu'il était en train de terminer.
Ah, d'accord.
Le forage.
La plateforme en fait c'est quoi? Elle flotte au-dessus évidemment du golfe et à 5000 mètres on trace un puits finalement qui va dans le sol et c'est là qu'on extrait le pétrole. C'est
exactement.
Ça?
La plateforme, en fait, c'est très sophistiqué. C'est qu'ils utilisent des satellites pour en fait situer la plateforme au-dessus de puits. Et s'il n'y a pas d'ancre ni rien, mais la propulsion pour le garder au-dessus de puits.
Bon, on dit que BP aurait dû prévoir ce qu'on appelle un puits de sécurité, c'est-à-dire une deuxième colonne, un deuxième tuyau pour justement faire en sorte que si jamais il y a un tuyau qui se brise, que le pétrole puisse être acheminé dans un autre tuyau. Est-ce que c'est comme ça normalement?
Mais, Sioko, au profond de la mer, il y a un blowout preventer. Et donc, le système qu'ils ont, c'est il y a plusieurs systèmes où on peut réduire le volume, où on peut en fait finalement couper. Alors là, si on le coupe, ça c'est un RAM. Tout ce qu'ils ont fait, le forage est parti. Donc, s'ils avaient eu la possibilité, ils auraient pu couper complètement le puits. Mais ils auraient perdu 100 millions de dollars qui a coûté pour forer le puits.
Mais ça va leur coûter plus cher avec toute la catastrophe environnementale de toute façon.
Oui, mais donc sûrement ce ne sont pas les gens sur la plateforme qui ont pris la décision de ne pas faire ou de le faire. Mais il se peut aussi que le gaz qui est sorti aussi a engagé le ciment qu'on était en train de faire, ça s'appelle le tubage ou coublage, pour pour consolider la paroi du puits. Et donc, il se peut qu'il y ait une sorte de gomme qui empêchait le fonctionnement de ce blow-up preventer.
Bon, ce qu'on appelle, en fait, c'est une espèce de valve de sécurité, un peu comme une trappe à clapet, comme on l'appelle pour les systèmes d'égouts domestiques. Mais là, comment ça se fait qu'entre le 22 avril, on a mis beaucoup de temps là, à réagir, parce qu'on a laissé le pétrole jaillir, puis là, on n'a fait que regarder l'étendue de la nappe pétrolière. Comment ça se fait qu'on a été lent à réagir?
Mais j'étais en train de réagir. Ils ont des systèmes pour, en fait, submersibles pour regarder qu'est-ce qui se passe, et ils essayent d'activer ces vannes de sécurité. Mais ça marche pas, et ils savent pas pourquoi. Il se peut qu'il y a de métal qui empêche que ça ferme. Et donc maintenant, leur idée, c'était, bon, ils avaient deux, trois différentes idées pour arrêter le fuite. Et un, c'est en fait de mettre des dômes au-dessus.
C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là, cette espèce d'immense cage de métal.
Oui, c'est ça.
En terminant, là actuellement, on est en train de contenir l'expansion de la nappe. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce pétrole-là? Est-ce qu'il y a moyen de le récupérer et de faire en sorte que en fait, l'environnement soit préservé?
Ben, jusqu'à présent, il semble que c'est toujours de 8 km de côte. Et donc, peut-être ils vont essayer de brûler. Il y a 500 bateaux qui sortent pour aller le récupérer. Mais finalement, on peut le brûler, on peut le traiter avec des produits chimiques, en fait, les bactéries qu'il peut manger. Et donc, ce sont les trois façons de faire, d'essayer de traiter la nappe qui se produit.
Ben, en terminant, selon vous, là, est-ce qu'il est trop tard?
Non. C'est Yoko. Ils disent que jusqu'au mi-juin, c'est comme, si ça continue jusqu'à mi-juin, ça va être comme la catastrophe à Valdez en Alaska.
On en a encore des séquelles?
Oui, donc c'est grave. C'est vraiment pas bien pour l'industrie pétrole, mais quand même, on va pouvoir traiter, je suis sûr.
Dernière question, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tous les processus d'exploitation du pétrole offshore?
Oui, sûrement. Ce sont une fois qu'on voit qu'on a un problème de sécurité, la réaction, c'est que de regarder au profond chaque étape, identifier quels sont les problèmes et ensuite les réparer et traiter.
Mais Monsieur Grégory Patience, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. C'était Grégory Patience, professeur agrégé au département chimique à l'École Polytechnique de Montréal. Dans un instant, je transporte à Port-au-Prince avec notre collègue, Monsieur Karel Pedre.